Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux TCA, les troubles alimentaires compulsifs. Troubles qu'on appelle plus communément boulimie ou encore anorexie mentale. Ces maladies, souvent liées, touchent essentiellement une des personnes jeunes et de sexe féminin. La population étudiante n'est quant à elle pas épargnée, mais malheureusement, une certaine réserve entoure ces maladies, on en parle difficilement. Il semblait donc tout naturel de consacrer une émission à ce sujet. Enjeux de santé est alors aller à la rencontre du docteur Lauvin, médecin nutritionniste à la clinique Saint-Yves à Rennes, où existe un centre de réadaptation digestive et nutritionnelle. Là-bas sont pris en charge des patients atteints de boulimie ou d'anorexie. Docteur Lauvin, comment pourrait-on justement définir la boulimie ou l'anorexie ?
L'anorexie et la boulimie, que vous avez bien fait de relier dans une seule et même maladie, est une affection psychique qui retentit sur le comportement alimentaire et donc sur l'état nutritionnel. Ça peut se résumer à un seul constat, c'est que le patient prend le contrôle de son alimentation, un contrôle en général très restrictif, de façon à pouvoir maîtriser son poids et perdre en quelque sorte la liberté de s'alimenter quand il en a envie, de cesser de s'alimenter quand il n'a plus envie de manger, et de retrouver une certaine indifférence vis-à-vis de l'alimentation quand ce n'est pas le moment de manger. Autrefois, on séparait bien l'anorexie de la boulimie. Maintenant, on sait que ce sont deux facettes d'une seule et même maladie, avec des périodes d'anorexie, c'est-à-dire une restriction de l'alimentation, et des périodes de boulimie, c'est-à-dire où on mange beaucoup sans pouvoir se retenir, suivies de vomissements pour éviter de prendre du poids. C'est une maladie extrêmement fréquente car une étude récente de l'OMS parue en 2003 considère qu'il y a 1,2% de la population des femmes âgées de 18 à 35 ans qui ont une anorexie restrictive, 3,4% qui ont une boulimie avec vomissement et 4,5% qui ont des compulsions alimentaires. Alors, si on fait un rapide calcul à partir de la population de Rennes où la proportion étudiante est importante, si on regarde les chiffres de l'INSEE en 1999, on nous dit qu'il y a 45 000 femmes âgées de 18 à 35 ans. Si l'on applique les statistiques que je viens de vous donner, ça fait 540 anorexiques, 1500 boulimiques avec vomissement, 2000 avec compulsion alimentaire, et si on fait la somme, ça fait environ 4000 jeunes femmes qui souffrent en théorie de cette maladie. Donc c'est une maladie très fréquente.
Et pourquoi l'anorexie touche une population féminine ?
C'est une question dont la réponse n'est pas simple et n'est pas totalement établie. Il est clair que les garçons et les hommes représentent environ 1% de cette population. L'anorexie et la boulimie, ça consiste à avoir une atteinte sur soi-même, s'empêcher de manger, se punir quand on mange, se forcer à vomir. C'est beaucoup de comportements de violence sur soi. Les psychiatres sont là pour nous apprendre que la violence chez les femmes est plus volontiers ciblée sur elles-mêmes, alors que chez les hommes, ça se porte plutôt sur l'entourage familial ou professionnel ou social, avec des comportements de toxicomanie ou de casse qui traduisent une souffrance intérieure. Et chez la femme, c'est plutôt une violence sur soi. Mais la réponse n'est pas encore clairement établie.
Pour l'anorexie et la boulimie, quels sont les symptômes, s'il y en a ?
Il y en a. Ils sont parfois évidents pour l'anorexie restrictive, tout simplement parce que la patiente perd du poids et perd spectaculairement du poids. Donc ça se voit, elle est maigre et elle s'enveloppe parfois dans des vêtements un peu amples pour éviter que la maigreur ne se voie. Le comportement se voit dans la mesure où la patiente évite les moments festifs à partager un repas, donc aller au cinéma puis au fast-food, c'est quelque chose qui l'attendent pas. Et puis elle peut avoir un comportement un peu intrigant dans une hyperactivité qui consiste à courir, qui consiste à marcher, ne pas prendre les transports en commun, à rester tout le temps debout, et tout ça allant dans le même sens, c'est-à-dire d'une part ne pas prendre de calories et d'autre part en perdre un maximum. Donc l'anorexie restrictive, cela se voit, mais ça ne se voit pas pour la patiente elle-même. Et c'est l'une des caractéristiques majeures de cette maladie, c'est ce que l'on appelle la nosognosie, c'est-à-dire que la patiente ne peut pas se rendre compte de son affection. D'autant plus que lorsqu'elle se regarde dans la glace, elle se trouve très grosse, elle se trouve éventuellement à un poids normal, mais elle ne se voit en aucun cas maigre. Donc cette maigreur qui est évidente et qui fait peur à l'entourage n'existe pas pour la patiente. En revanche, pour la patiente qui a une boulimie et des vomissements, les symptômes sont le plus souvent cachés. C'est-à-dire que la patiente peut se livrer à un comportement d'hyperalimentation et de vomissement, mais de façon toujours seule, à domicile ou cachée, ou dans les toilettes, et de façon à ne pas que cela se voie, et hésite beaucoup à le dire. Dans la statistique de l'OMS dont je vous parlais, on estime à 50% des patientes qui ne sont pas du tout suivies et qui ne parlent pas du tout de leurs patientes. Ça veut dire qu'il y a donc encore une fois environ 2000 boulimiques vomisseuses à Rennes qui ne sont pas suivies.
Une perte importante de poids a forcément un impact sur notre organisme. Quelles en sont les conséquences et peut-il avoir un risque vital lié à cette perte de poids ?
Il y a des conséquences qui sont tout d'abord physiques et fonctionnelles, c'est-à-dire ressenties par la patiente. La première, c'est la fatigue. La patiente ne s'en plaint pas toujours, mais elle peut avoir du mal à faire ses tâches quotidiennes, à porter des choses, à porter son sac. Elle peut avoir du mal à se concentrer dans ses études. Encore une fois, nous sommes sur une radio étudiante. On peut avoir des patientes dont le fléchissement des performances universitaires peut être un signe d'alerte après un parcours sans difficulté jusque-là, c'est-à-dire des difficultés de mémorisation, de concentration, de synthèse et de tout ce qui est demandé lors des cours. Ensuite, il y a des symptômes physiques, bien sûr la maigreur, il y a la frilosité, ce sont des patientes qui s'en couvrent beaucoup, qui ont tout le temps froid, et un symptôme tout à fait important est l'arrêt des cycles menstruels spontanés, c'est-à-dire que les règles s'arrêtent lorsque la maigreur permet à la patiente d'avoir un poids qui descend en dessous des limites acceptables. Il faut à ce moment-là parler de l'indice de masse corporelle, qui est le rapport du poids sur le kilo de la taille, et en dessous de 18, les règles s'arrêtent. Ensuite, les conséquences somatiques, et qui commencent à être des critères de gravité, sont des conséquences osseuses, avec une altération de la solidité de l'os qui se voit par des radios, une plus grande fragilité à se défendre contre les maladies infectieuses, avec des infections plus fréquentes, ou des petites infections cutanées qui deviennent plus graves, ou des bronchites qui sont plus graves. Et ensuite, ça se voit davantage à la prise de sang, l'atteinte de deux organes essentiels qui sont tout d'abord le foie, avec une augmentation de certaines enzymes qui montrent que le foie souffre, s'altère, ça donne une hépatite, comme si on avait une hépatite virale. Et le deuxième appareil touché, c'est l'appareil sanguin, avec une diminution des globules blancs, qui explique en grande partie la fragilité et la vulnérabilité aux maladies infectieuses. Pour répondre à votre question, c'est une maladie grave, c'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui triple la mortalité des patientes de cette tranche d'âge et au fur et à mesure que la maladie évolue et se chronicise. On dit que la mortalité est triplée jusqu'à 15 ans d'évolution et elle est multipliée par 7 au-delà de ce délai. C'est donc une maladie grave. Il y a une mortalité par les complications somatiques, mais il y a aussi, et c'est souvent dans la boulimie avec vomissement, une mortalité par suicide. C'est la maladie mentale la plus mortelle.
Pour ce qui est des causes de cette maladie, elles peuvent être diverses, je suppose, et il faut aller chercher du côté des facteurs psychologiques, sociaux, émotionnels.
Parfaitement. C'est finalement un tableau clinique et comportemental bien codifié que je vous ai décrit tout à l'heure, restreindre son alimentation, bouger beaucoup, vomir, etc. Mais les causes sont multiples et c'est l'un des traits particuliers de cette maladie, c'est que des histoires extrêmement diverses peuvent conduire finalement à une attitude très stéréotypée mais qui revêtent des histoires complètement différentes. Donc il traîne beaucoup comme ça de stéréotypes autour des causes de l'anorexie, où on en avance souvent des problèmes familiaux, des conflits avec les parents. D'un autre côté, on parle beaucoup de l'image que véhiculent certains médias au travers des idéaux de minceur, surtout dans notre société. Tout cela revêt une parcelle de vérité, mais qui est plus ou moins importante selon la patiente que l'on prend en charge. Il faut signaler que l'enfance des patientes, lorsqu'elles finissent par nous en parler, révèle parfois beaucoup de tourments, parfois des drames, avec des tableaux d'inceste ou d'agression dans le cadre de la famille qui ont été tues jusque-là et qui fait que c'est au travers du symptôme que la patiente finit par exprimer une souffrance intérieure dont qu'elle n'a jamais pu dire jusqu'ici. Bien entendu, ce n'est pas le cas de toutes les patientes, mais il y a parfois comme ça des secrets familiaux qui sont dévoilés au bout de 20-30 ans de la vie de la patiente. Dans d'autres cas, ce peut être des carences affectives avec des deuils mal assumés, ça peut être des histoires de rivalité, des histoires sentimentales, comme vous l'avez dit, beaucoup de problèmes psychologiques avec des conséquences de dévalorisation, de repli sur soi, et que la patiente finit par exprimer par ce comportement qui est malheureusement tout à fait inadapté, mais qui sera sa façon à elle de pouvoir dire toute sa souffrance.
Bien sûr, ces maladies peuvent être soignées. Et justement, comment peut-on traiter ces maladies ? Je suppose qu'il y a besoin à la fois d'une aide médicale et psychologique.
Vous avez tout dit, c'est une des rares maladies où il y a besoin d'une double prise en charge, c'est-à-dire à la fois somatique, pour parler de tout ce qui est le corps, et puis psychique. En effet, quand la patiente a un état de maigreur qui fait qu'elle ne peut plus tenir debout, ou qu'elle a des plaies cutanées, qu'elle n'arrive plus à tenir sa tête, ou enfin, qu'il y a des tableaux qui sont tout à fait dramatiques, avec des maigreurs extrêmes, il y a besoin d'une véritable réanimation. Il y a parfois des patientes qui ont aussi des troubles physiques qui ne se voient pas, à force de vomir, qui peuvent avoir des altérations du fonctionnement du tube digestif, des caries dentaires, des problèmes de salivation, tout ceci nécessite un traitement. Mais bien entendu, tout ce traitement indispensable ne traite que le symptôme. C'est au psychiatre, au psychologue, à la prise en charge psychique, d'aider la patiente à élucider la cause du symptôme, l'aider à travailler dessus et l'aider à l'exprimer autrement que par une attaque sur son corps. Il faut donc essayer de mener conjointement la prise en charge somatique et psychique. C'est toute la difficulté parce que l'un des traits essentiels de l'anorexie, surtout restrictive, c'est de s'opposer à toute tentative d'alimentation qui l'aiderait à retrouver un poids normal. En effet, la patiente se voit grosse, ne voit pas l'utilité de manger autant qu'on essaye de lui expliquer qu'il est nécessaire de le faire. Donc, elle va s'opposer aux soins dont elle entrevoit tout de même la nécessité. Mais il y a besoin là aussi d'un soutien psychologique et parfois psychiatrique pour l'aider à accepter la nécessité de soins que sa maladie cherche à lui faire éviter à tout prix.
Essayez aussi de booster la confiance des patientes.
Mais vous avez dit le maître mot, c'est véritablement de confiance qu'il s'agit, parce qu'il faut à tout prix que la patiente accepte de la part de ses soignants ce qui pour elle est une violence, c'est-à-dire de manger au-delà de ce qu'elle a accepté de manger. Donc il faut vraiment qu'elle puisse avoir une grande confiance pour faire quelque chose qu'elle n'a vraiment pas envie de faire.
Happy spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Nothing else but you and I. Ain't nobody else. You and I, no one else. Nothing else but you and I.
C'était Crystal Fighters avec le titre You and I. De retour dans Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes, où aujourd'hui on parle anorexie et boulimie, avec le docteur Lovin, médecin nutritionniste à la clinique Saint-Yves. Juste avant la pause musicale, nous avons abordé les traitements qui existent pour soigner ces maladies, mais n'y a-t-il pas un risque de rechute ?
Comme dirait l'un des grands noms de la nutrition qui s'occupe de cette maladie, la rechute est la règle. Donc c'est peut-être un petit peu pessimiste de dire ça, parce qu'il y a d'autres maladies finalement qui rechutent. Quand on prend une polyarthrite ou quand on prend certaines maladies, il y a des poussées, ça s'arrête et puis après ça rechute. Bon. Là, il s'agit d'un trouble du comportement qui n'est pas prêt à lâcher de sitôt, surtout tant que le travail psychique n'a pas abouti et que la patiente n'a pas trouvé en elle-même la ressource pour avoir un comportement qui puisse, face à une agression, une anxiété, une angoisse, un deuil, un chagrin, agir autrement que sur son alimentation. C'est-à-dire qu'on peut, dans des conditions tout à fait apaisées, modifier son comportement, mais il faut l'aider à ce que la maladie ne rechute pas à l'occasion d'une déstabilisation de son parcours de vie. Donc face à cela, c'est la notion d'un suivi qui est indispensable, à la fois nutritionnel et psychique, suivi qui peut durer des mois, des années, en général aussi longtemps que la maladie a duré, et surtout en encourageant la patiente et en lui expliquant qu'une rechute peut survenir, que ça n'est pas désespéré, qu'il faut savoir l'accepter, qu'on va la traiter, qu'on va l'accompagner, qu'on ne va jamais la lâcher, et surtout que les guérisons existent, bien entendu.
Le soutien de l'entourage peut-il être déterminant dans le traitement de ces pathologies ? Et par exemple, comment peut-on aider un proche dont on soupçonnerait être atteint d'anorexie ou de boulimie ?
Le soutien de l'entourage est fondamental, d'abord dans l'entrée dans le soin. Je vous ai dit tout à l'heure que l'on estime que la moitié des patientes ne sont pas suivies parce qu'elles n'ont pas envie de consulter, parce que, du moins tant que la maladie est à peu près compensée au début, elles ne s'estiment pas malades. Et c'est l'entourage qui convainc la patiente de venir. L'entourage, ça peut être la famille, bien entendu, ça peut être un ami, ça peut être parfois l'entourage professionnel qui s'inquiète du comportement et qui, par le bouche à oreille, finit par dire « tu devrais consulter ici ou là ». Et parfois vient accompagner la patiente jusque dans nos salles d'attente car elle rechigne à venir seule. Donc l'accompagnement dans la démarche du soin est indispensable. L'accompagnement est tout aussi utile dans le soin. L'une des questions importantes que je pose en cours de première consultation, c'est de savoir quelles sont les personnes de l'entourage qui connaissent le symptôme et qui sont au courant de la consultation. On est parfois surpris d'entendre que, en dehors de la personne qui l'a amenée en consultation, la patiente n'a prévenu personne, ni de sa maladie, ni de son soin. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Les patientes n'osent pas dire qu'elles vomissent, qu'elles gaspillent leur argent à revomir des aliments, qu'elles salissent, elles s'imaginent comme étant des déchets, ce sont des mots que l'on emploie. C'est donc une maladie dont on ne parle pas, comme on parlerait facilement de sa bronchite et de son entorse. Il faut donc, là aussi, on retrouve le maître mot de la confiance, que la patiente puisse dire à quelqu'un de son entourage toute sa souffrance et que cette personne, véritable personne de confiance, puisse l'aider dans le parcours redoutable qu'est le soin.
Existe-t-il des centres d'aide ? À qui peut-on s'adresser ?
Il y a des centres d'aide et surtout des associations. Il y a des consultations spécialisées, mais avant, il y a le médecin généraliste. Nous souhaitons toujours, nous encourageons toujours à ce que les patientes consultent leur médecin généraliste, l'informent de la consultation, que ce médecin puisse prendre le temps d'écrire quelques mots sur un papier de ce qu'il sait de la maladie, qu'il soit informé de la consultation, de la prise en charge. Le médecin généraliste est le premier relais, surtout lorsque c'est un médecin de famille et qu'il est bien investi de la confiance de la patiente. Sinon, il y a des centres médico-psychologiques de proximité que les patientes peuvent consulter. Il y a également les centres de santé médicaux et universitaires. Il y a le bureau d'aide psychologique universitaire, le BAPU, qui peut être consulté. Et nous avons la chance à Rennes de pouvoir partager notre travail entre les différentes équipes et de pouvoir conseiller aux patientes de s'adresser à l'établissement ou à l'équipe qui est le plus adapté à sa problématique. Donc peu importe le mode d'entrée dans le soin, l'essentiel c'est que la patiente puisse arriver un jour à dire ce dont elle souffre auprès de quelqu'un qui puisse ensuite présenter son observation, son histoire, avec son accord bien sûr, de façon à l'orienter vers le lieu de soins le plus approprié.
Pensez-vous que la société peut avoir une influence, une mauvaise influence sur ces personnes ? Je veux par exemple parler du phénomène qu'on a vu il y a quelques années, des pro-ANA.
Franchement oui. Sur Internet, il y a le meilleur comme le pire, c'est-à-dire qu'on trouvera des associations qui aident réellement, on trouvera des sources d'informations sur la maladie et ses dangers, et on trouvera des sites tout à fait pervers qui donnent des recettes pour maigrir, pour vomir. Il y a des sites qui sont tout à fait mal intentionnés dans leur discours et qui sont animés par des gens qui revendiquent un pseudo-bien-être lié à la perte de poids, l'hypoglycémie chronique et tout un tas de délires de cette nature qui sont profondément dangereux. Il y a par ailleurs des informations qui sont parfois maladroites. J'ai vu récemment une patiente en consultation qui a entendu appris et malheureusement adopté l'idée de vomir pour rejeter les aliments et de ne pas prendre de poids en regardant une émission de télévision qui était tout simplement une émission d'information sur la maladie. Donc là, ça n'est pas une querelle d'intention, mais c'est hélas une conséquence à l'envers d'une information mal reçue. Enfin, la société a très certainement, mais là plus dans ses racines, un mauvais exemple à donner dans un idéal de minceur que beaucoup de patientes ne peuvent pas avoir ou ne peuvent pas copier sans une restriction alimentaire pathologique qu'ensuite elle ne peut plus s'empêcher de faire. Je pense à ces mannequins, je pense à ces photos de jeunes femmes qui sont le plus souvent des photos retouchées pour lesquelles on gomme telle ou telle rondeur d'un petit coup de Photoshop de façon à aplatir une poitrine ou aplatir des fesses de façon à donner des images qui sont tout à fait fantasmatiques et qui ne correspondent à aucune réalité. Le problème, c'est qu'un certain nombre de patientes n'ont pas suffisamment de sens critique vis-à-vis de ces images factices, veulent leur ressembler, s'imaginent que ce sont ces profils qui peuvent plaire aux garçons et donc peuvent ruiner leur santé en essayant de leur ressembler, hélas, vainement.
Comme nous l'a dit le docteur Lovin, le soutien de l'entourage est important pour traiter efficacement l'anorexie ou la boulimie. C'est pour ces raisons que Solidarité Anorexie 35 a vu le jour. Cette association a pour le but d'aider les familles à accompagner leurs proches touchés par ces pathologies. Bruno de Beaurepaire est le président de Solidarité Anorexie 35 et nous présente l'association.
Oui, l'association Solidarité Anorexie Boulimie Ille-et-Vilaine ou 35 a été créée en 2007 pour réunir les familles, les patients, les familles, les proches. Nous pensions que à Rennes il n'y avait pas d'association de ce type-là, qui puisse réunir les patients, les parents, les proches, les frères, les sœurs, un temps, une fois par mois, pour se retrouver ensemble, pour écouter, pour entendre, pour soutenir, pour accompagner les familles qui soudain se trouvent avec cette souffrance, avec un membre de leur famille qui soudain se trouve dans le chaos, dans une grande souffrance parfois. Et voilà, et la famille qui est emportée aussi dans cette tourmente, qui ne comprend pas. Donc, nous, on est une porte d'entrée vis-à-vis des personnes qui sont en souffrance, mais beaucoup pour les familles, pour toutes les familles. Nous sommes une porte d'entrée. On va pouvoir les accompagner, les soutenir, les entendre, leur redonner la parole, les rompre l'isolement de ces familles.
Oui, justement, quel type d'action menez-vous ?
L'anorexie, la boulimie, ce sont des troubles psychiques, du cerveau. Et nous, on pense que la parole est extrêmement importante pour permettre à la personne qui est en souffrance et à la famille de pouvoir retrouver ses ressources positives, de pouvoir aller vers la guérison, de prendre le chemin de la guérison.
Peut-on s'adresser à vous pour venir en aide à un proche qu'on penserait touché par une de ces maladies ?
Oui, c'est vrai que on a un numéro de téléphone et au bout de ce téléphone, on entend beaucoup de parents, des mères qui nous appellent. Voilà, ma fille a 14 ans, 16 ans. Elle est anorexique, ça ne va pas du tout. Elle est pas bien, elle a perdu beaucoup de poids, etc. C'est pas évident pour une famille. C'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il se fait que ces familles, elles ne savent pas du tout à qui s'adresser, à quel spécialiste, à quel médecin, à quel professionnel. Donc, elles nous appellent. Et nous, on les conseille, on les informe, on leur dit le chemin qu'il faut prendre, le travail qu'il faut faire avec les professionnels. Voilà, ils se trouvent complètement... ils sont assommés, quoi. Ils sont perdus. Mmh. Ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous, on est là. On connaît ces problèmes-là, on les a vécus. Ou on les a vécus directement ou indirectement. On a dans notre association, on a des personnes qui ont vécu ces pages sombres pendant des années. Elles s'en sont sorties. Elles sont guéries. elles ont envie de vivre comme nous tous. Et puis aussi, nous avons des parents qui ont connu ces pages sombres sur leur fils ou leur fille, et celle-ci va mieux, ou celui-ci, il va mieux aujourd'hui, c'est bon.
Vous disiez que des familles, des entourages vous contactaient parce qu'ils étaient perdus, ils ne savaient pas à qui s'adresser. Pensez-vous qu'il y ait un manque d'informations sur ces maladies et qu'il y ait peut-être même un certain tabou qui entoure l'anorexie et la boulimie ?
Oui, oui, je crois. Alors, j'en suis pas sûr à 100%, naturellement. Mais, à mon avis, oui. Oui, tout ce qui est, oulala, tout ce qui est psychiatrique, tous ces trucs-là de cerveau, de... Oulala, oui, c'est tabou. Combien de familles j'ai rencontrées, j'ai croisées, qui se taisent, qui n'en parlent pas aux voisins, qui n'en parlent même en famille. On essaye d'étouffer l'incident, j'allais dire, psychique et physique du membre de la famille qui n'est pas bien. Ensuite, faut pas en parler, faut pas le dire, faut pas que ça se sache. C'est ça aussi, hein, c'est incroyable, mais c'est comme ça aussi. Il faut pas en parler. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? La famille, en général, les parents vont s'isoler. Il y a un isolement, il y a le silence. Alors ça, c'est terrible, parce que ce silence va tuer il va tuer peut-être la personne et la famille aussi. Il va être dans la tourmente, quoi.
C'est la fin d'Enjeu de Santé, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission ainsi que le podcast des émissions précédentes sur radiocampusrennes.fr. Vous pouvez également retrouver d'autres informations complémentaires comme des sites internet ou des coordonnées d'associations ou de centres d'aide. Quant à moi, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien et salut à tous.